VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
À nouveau, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine Sportrama. Mais avant cela, un résumé de l'actualité. Au procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Mbushibaruta, accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, la défense a plaidé aujourd'hui à Paris l'acquittement de l'ex-fonctionnaire. L'un de ses avocats, maître Jean-Marie Bijoux Duval, a fait valoir que M. Mbushibaruta n'a en aucune manière sciemment contribué au génocide des Tutsis et qu'il n'avait pas le pouvoir effectif de mettre fin au massacre. Pour les avocates générales, Laurent Mbushibaruta a été un rouage incontournable sans lequel la machine meurtrière n'aurait pas pu être mise en œuvre. M. Mbushibaruta aurait eu une dernière fois la parole demain mardi. Le verdict est attendu dans la journée. Une cinquantaine de militaires ivoiriens arrivés dimanche à l'aéroport de Bamako par un vol spécial étaient toujours retenus pour vérification ce lundi, ont indiqué un responsable policier malien et un responsable de l'armée ivoirienne. Les militaires ivoiriens retenus sont venus au Mali sur la base d'une convention pour travailler sur la base logistique de la société allemande Sahelian Aviation Services, selon une source diplomatique ivoirienne. L'information a été confirmée par un responsable de l'entreprise allemande. Au Burkina Faso, 5 civils ont été tués dimanche dans une attaque de djihadistes présumés contre un détachement militaire à Barsalogo, dans le nord du pays, a annoncé l'armée. Des opérations aériennes et terrestres ont aussitôt été engagées pour traquer les assaillants qui tentaient de se replier vers une base terroriste localisée à Bangmiougou, près de Barsalogo. L'armée précise que plusieurs terroristes ont été neutralisés et la base logistique a été détruite. Au Togo, une explosion dans le nord du pays a fait 7 morts et 2 blessés dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé l'armée sans donner plus de détails. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs, précise le communiqué de l'armée. L'explosion s'est produite dans la préfecture de Tone, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le mois dernier, le Togo a déclaré l'état d'urgence dans ces régions du nord en raison de la menace d'attaques de militants islamistes. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques d'opposition, a renouvelé aujourd'hui son appel à boycotter un référendum sur la Constitution prévu le 25 juillet, malgré une nouvelle version préparée par le président Kais Saied. Selon Ahmed Najib Chebi, le fondateur et président du FSN et figure politique de gauche, le texte proposé par M. Saied veut légitimer un régime présidentialiste, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme via une nouvelle Constitution. Nous tenons à la Constitution de 2014 que nous considérons comme l'unique constitution représentative de la volonté du peuple tunisien, a ajouté Jawad Ben Mbarek, lui aussi membre de la coalition. Au Soudan, les organisateurs des sit-ins lancés il y a 10 jours à Khartoum pour forcer l'armée à rendre le pouvoir aux civils ont annoncé aujourd'hui avoir démantelé 2 de leurs 4 campements dans la capitale soudanaise. Les 2 autres sit-ins sont maintenus, même si le nombre de manifestants y a baissé à cause de la fête de l'Aïd al-Adha.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Japon, la coalition au pouvoir a conforté sa majorité au Sénat lors d'élections dimanche marquées par l'assassinat 2 jours plus tôt de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Les obsèques doivent avoir lieu demain mardi en présence uniquement de proches de M. Abe avant un hommage public à une date ultérieure. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est brièvement rendu aujourd'hui à Tokyo pour rencontrer le premier ministre Fumio Kishida et présenter personnellement ses condoléances et celles du président Joe Biden. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine à donner son aval à la prolongation du mécanisme transfrontalier permettant aux Nations Unies d'acheminer de l'aide humanitaire en Syrie dans des zones non contrôlées par le pouvoir de Damas. De son côté, son compte rendu de la conversation téléphonique, le Kremlin n'a pas fait mention du mécanisme transfrontalier, soulignant que les deux dirigeants avaient abordé les préparatifs en vue d'une rencontre au sommet dans un avenir proche. La Russie alliée et soutien militaire du président syrien Bachar al-Assad a mis son veto vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU à un projet de résolution prolongeant d'un an l'autorisation d'aide transfrontalière.